FMI et de l'Union européenne, accordent sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Alors, on a demandé droit, c'est marqué ben, Gosport en grève. On aurait pu rajouter d'autres termes, hein, comme ras-le-bol de la pression, les menaces.
On pourrait rajouter que ce qui est affolant, c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour entraver notre grève, tout simplement. Hein.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
C'est l'heure du Canu Info. Et ce soir, on est vendredi, et cette semaine, c'est donc le Canu Info spécialisé dans les luttes sociales. Et ce soir, on va donc vous parler de pas mal de choses, comme d'habitude. On va commencer avec un extrait d'un son qui nous vient du site sonenlutte.net et qui raconte un peu les actions d'un collectif de résistance face à l'administration qui se trouve en Ariège. Ensuite, on aura quelques brèves. Des nouvelles des luttes au Pays Basque, et on va essayer notamment d'éclaircir un peu la dépêche qu'on a pu entendre cette semaine, comme quoi le parti Batasuna annonçait sa dissolution. On va essayer d'avoir un coup de fil avec notre envoyé spécial à la ZAD qui va nous raconter les déboires et les aventures du Festizad qui se prépare en ce moment. Et puis on ira ensuite vers le Kurdistan, on prendra des nouvelles des luttes là-bas aussi, et malheureusement des condamnations qui tombent un peu à l'appel ces temps-ci. Et on terminera, comme d'habitude, par un petit agenda de la semaine prochaine et des événements à venir. Donc voilà, on va démarrer tranquillement avec cet extrait donc qui a été produit par la radio Canal Sud et qu'on peut trouver sur le site sonenlutte.net qui nous parle des résistances à l'administration en Ariège.
12.2 de Canal Sud à Toulouse, et on est en Ariège avec des membres du collectif d'autodéfense face au contrôle de l'administration, le CAFCA. Bonjour.
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 Bonjour. Bonjour.
On continue donc avec la série Dans la boue.
Voilà, dans la boue des tranchées de la question sociale avec de l'organisation. On va commencer un peu par vous présenter avec votre tract. Nous sommes chômeurs, locataires, intermittents du travail, travailleurs, pauvres. Nous sommes nombreux en Ariège comme ailleurs, à devoir toujours plus nous serrer la ceinture, à faire des pirouettes pour payer les factures, gaz, électricité, etc., ou mettre de l'essence dans la voiture. Les loyers augmentent et il est très dur de les payer, même avec la location logement. C'est la crise. La situation ne va aller qu'en s'empirant. Nous subissons constamment le contrôle et la violence de l'administration qui nous veulent isoler et culpabiliser, déposséder de nos conditions d'existence, et nous aurions des devoirs pour mériter des miettes. Alors face à ceux qui nous rendent la vie impossible, nous nous organisons sans remettre notre sort dans les mains des experts du social, pour s'entraider pratiquement, pour comprendre le fonctionnement des administrations, pour débloquer des dossiers, CAF, Pôle emploi, MSA, pour créer un rapport de force. Donc voilà, vous vous auto-organisez, est-ce que vous pouvez un peu nous raconter ça, de comment est-ce que vous faites ça, quoi, pour agir collectivement et sortir de l'isolement dans lequel on se retrouve quand on est dans ces situations-là?
En fait, c'est un petit peu le début, donc ce que je peux raconter, ça va pas être très très long. Le départ, c'est un groupe de gens qui se disent que ça serait bien de faire quelque chose sur les questions de la précarité, du chômage, etc. Et donc on veut pas au début être un collectif de RSAST. Et donc on se réunit dans un squat qui a ouvert à Saint-Giron cet été et qui depuis s'est fait expulser. Et à la première réunion, on écrit ce petit tract qu'on décide d'aller un peu diffuser partout. Et on se rend compte qu'on est un certain nombre à être au RSA dans le collectif. Et donc, un certain nombre aussi à recevoir des convocations régulièrement. Et notamment à être convoqué dans les commissions de solidarité territoriale. et ses commissions. Donc on va un petit peu plus s'intéresser à ses commissions. Et on se rend compte qu'en fait, il y a une dizaine de personnes qui sont soit des conseillers Pôle emploi, soit des conseillers RSA, c'est-à-dire, comment ça s'appelle, agent d'insertion, là, assistante sociale, etc., qui reçoivent une personne qui est au RSA et qui n'a pas rempli une des conditions qu'elle doit remplir le nombre de devoirs qu'ils ont là. C'est-à-dire, par exemple, elle s'est pas rendue à un rendez-vous, elle a pas rappelé son AS, elle a pas répondu à une offre d'emploi, ou elle s'est pas inscrite au Pôle emploi. Et elle doit venir à cette commission pour justifier pourquoi elle a pas fait ça, se faire taper sur les doigts et éventuellement se faire radier.
D'accord. Qu'est-ce que c'est que ces commissions? C'est des sortes de tribunaux?
Ben, nous, on appelle ça comme ça, du coup, parce qu'on se rend compte que déjà, ben, y a une grosse disparité entre le nombre de personnes qui nous reçoivent et le nombre qu'on est, puisqu'on est tout seul, et que on est là pour, donner des gages de notre bonne intégration, de notre bonne insertion, et que en face de nous, il y a des gens qui nous jugent, quoi, qui jugent notre parcours de vie, qui jugent pas seulement nos difficultés ou non à s'insérer, mais qui jugent qui on est, est-ce qu'on est insérable ou pas, est-ce qu'on a bien dit bonjour à la madame ou rempli tel papier, etc.
Est-ce qu'il y a des sanctions à la clé de ces commissions?
Est-ce qu'il y a des sanctions? Eh bien oui, justement, les sanctions, elles sont décidées et elles sont pas du tout évoquées pendant la commission, c'est-à-dire qu'ils disent rien sur ce qu'ils sont capables de faire, mais quand on y est allé, justement, on en a su un petit peu plus. Et on a su que notamment ils pouvaient soit réduire le RSA, donc ponctionner une partie du RSA pour un nombre de mois qu'ils décident eux-mêmes, soit complètement supprimer.
Alors
et
juste
donc là, il faut se réinscrire, etc.
Avant de venir au fait que vous y êtes allé, justement, pour préciser un petit peu, ça se passe au conseil régional, ça se passe où? C'est
conseil général, non plutôt.
Au conseil général,
ouais,
c'est
au conseil général, oui, dans des locaux.
Et donc on se retrouve avec des fonctionnaires et on sait qui on a en face de nous ou ils nous disent
alors,
pas.
Alors la plupart du temps ils le disent pas, il faut leur demander. En fait ils ont des petits papiers devant eux là avec leur nom, mais si on veut savoir exactement ce qu'ils font, etc., il faut leur demander. Et d'ailleurs ils aiment pas du tout ça parce que on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour poser des questions en fait. C'est eux qui sont là pour nous cuisiner. Et
ce sera une espèce de conseil de discipline en fait.
Oui, voilà, c'est un genre de...
D'accord, une espèce d'infantilisation. Et donc, du coup, vous allez là-bas au moins deux fois, selon mes informations, peut-être plus, bah, aujourd'hui, hein, parce que c'est...
Alors, ouais, en fait, on y est allé d'abord trois fois en groupe. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on va y aller, on va leur dire qu'on a une exigence, c'est d'être reçus à nombreux, c'est-à-dire à aussi nombreux que ce qu'ils sont, pour remettre un petit peu d'égalité, puisque c'est pas un tribunal, donc si on veut s'expliquer, on a le droit aussi d'être accompagné, et comme ils sont 10, pourquoi pas y aller à 10. Donc évidemment, ça nous est refusé, mais comme on est arrivé à peu près à 25-30, en fait, l'effet que ça a eu, c'est de bloquer la commission pour toute la session, c'est-à-dire pas seulement la personne avec qui on était venu, mais tous les gens qui sont convoqués ce jour-là.
D'accord.
Du coup, ça a complètement bloqué ce dispositif-là. Et on a passé plusieurs heures dans les couloirs à discuter avec ces bons monsieur, ces bonnes dames qui étaient censés nous recevoir. Et on leur posait plein de questions sur qui ils sont, à quoi servent ces commissions. Et à expliquer qu'on refusait de participer à cette séance d'humiliation et de radiation, en fait. Puisque voilà, le résultat, c'est potentiellement la radiation. Et d'accord. Qu'on voulait pas être soumis à ça.
Et donc, qui c'est qui a mis en place ces commissions? C'est le Conseil Général qui gère justement ces histoires de RSA? C'est qui?
Voilà, c'est ça. C'est le Conseil Général qui gère le RSA socle. En fait, le RSA, quand on ne travaille pas du tout, c'est eux qui ont le budget pour faire ça. Et donc, c'est eux qui assurent le contrôle du suivi de ces trucs-là. En fait, c'est la CAF qui verse les sous. Mais c'est le Conseil Général qui les verse à la CAF et c'est eux qui gèrent qu'ils appellent le suivi, quoi.
Est-ce que tu sais si ça se fait dans d'autres conseils généraux, en fait, si ça se fait ailleurs en France ou si est-ce que c'est une spécificité de l'Ariège?
Alors les CST, non, c'est pas une spécificité ariégeoise parce qu'on sait que dans les Cévennes, par exemple, ils ont la même chose, mais c'est pas du tout national. Il y a certains départements qui le font pas du tout. Et je pense surtout les départements où il y a énormément d'allocataires, c'est beaucoup trop lourd comme dispositif, puisque ça bloque quand même pendant une journée par mois à chaque CST un nombre de gens important, puisque je disais qu'ils étaient une dizaine. Du coup, ça doit coûter extrêmement cher, en fait, comme dispositif de contrôle, quoi. Mmh. Donc, j'imagine qu'il y a des départements, ils peuvent pas se permettre de faire ça. Parce que là, en Ariège, il y en a une par mois à Saint-Girons, une par mois à Foix et une par mois à Pamiers.
D'accord, ça fait trois sur le territoire,
quoi. Ouais, tout à fait.
Et visiblement, Augustin Borompo, donc votre bon président du Conseil Général,
de gauche,
offusqué de payer 24,9 millions au titre du RSA. Et du coup, il dit dans un journal local, j'ai demandé plus de contrôle car j'ai dû faire face à des interrogations de la part de certains qui se demandent pourquoi dans l'Ariège il y a autant de RSA. Mm-hmm. Est-ce que du coup vous sentez ce truc de plus de contrôle? Est-ce que c'est quelque chose qui a changé ou qui est récent, par exemple lié à la crise, au fait que soi-disant ils ont moins d'argent? Ou est-ce que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps?
Le contrôle sur les RSA, ça existe depuis longtemps, oui. Après, on a l'impression, nous, en tout cas parce que ça nous est arrivé directement dans le groupe qu'on était, il y avait énormément de gens qui étaient directement convoqués. C'est pour ça qu'on a eu une activité assez importante dès le départ. C'est qu'en fait, il y avait plein de gens du collectif qui étaient convoqués à CCST. Et alors, est-ce que ça a un lien direct avec le fait qu'ils veulent dire sur les contrôles, ça? On n'en sait rien, mais effectivement, le fait que Bonrepo avoue, en fait, dans sa conférence de presse, qu'il voulait effectivement radier 452 personnes avant la fin de l'année, ça veut dire qu'il y a des objectifs, et donc il faut les remplir, et que donc il faut mettre le paquet, et convoquer les gens à CCST, ça permet vraiment de faire ça, puisque ça permet de les mettre en faute, de trouver tous les moyens possibles de les mettre en faute. Ouais. Du coup, oui, je pense que ça s'est effectivement accru, et la CST est une manière d'accroître ce contrôle.
Alors il a continué, en plus il dit il y a parmi les allocataires des gens qui trichent, des gens qui n'ont pas de droit, et je veux à ce propos aller jusqu'à saisir le procureur. Il s'agit d'argent public, il dit. En plus c'est quelqu'un qui s'y connaît en argent public parce qu'il est lui-même mis en examen dans une histoire de marché public, attribué hors des clous comme président du syndicat mixte et départemental. Est-ce que du coup ce truc est quand même un peu récent, ça a changé son fusil d'épaule, est-ce qu'il a un peu honte ou est-ce qu'il continue?
Ça lui a ouvert les yeux peut-être.
En tout cas, sur les menaces qu'il fait là sur la justice, le procureur, etc., c'est uniquement des menaces. Je pense que lui-même, il ira jamais. Enfin, ça m'étonnerait beaucoup qu'il aille jusque-là. Après, ça sert encore une fois à mettre la pression sur tous les gens qui voudraient toucher ce genre d'allocation, et notamment à dissuader aussi, nous on pense beaucoup ça, les gens de s'inscrire au RSA, parce qu'il y a énormément de gens en fait qui y auraient droit et n'y sont pas inscrits. Et voilà, c'est un discours politique hyper démago pour dire attention, je vous surveille, et d'ailleurs je pourrais aller plus loin, comme si ça allait déjà pas assez loin de couper 400 euros par mois à des gens qui ont que ça pour vivre, quoi.
Ouais, parce que là, quand tu dis donc il y a un non-recours aux aides sociales, hein, rappelez que l'ODENOR, l'Observatoire des non-recours aux droits et services, le 8 novembre publiait donc une recherche du CNRS qui disait que 5,3 milliards d'euros sont économisés entre guillemets pour non-recours simplement pour le RSA, quoi. On te remercie,
ouais, merci,
pour toutes ces infos. Peut-être tu veux rajouter quelque chose.
Non, moi, je vais peut-être rajouter quelque chose, c'est de dire que comme vous avez commencé en lisant le premier tract là, je pense que c'est important de redire qu'on n'a pas envie d'être un collectif de RSA, qu'on a envie de rencontrer des gens qui ont peut-être d'autres genres de galères aussi, et qu'on veut pas forcément se spécialiser là-dedans. Donc il faut pas se dire ah non, c'est un collectif de RSA, ça m'intéresse pas parce que je suis pas au RSA. Justement, nous, ce qu'on a envie, c'est de casser ces catégories et de rencontrer des gens qui soient dans d'autres situations. D'ailleurs, dans notre collectif, il y a un camarade éleveur qui nous a rejoint parce qu'il trouve aussi une sorte de point commun, de conditions communes dans le traitement que l'administration lui fait en termes de contrôle notamment, et qu'il y a il y a cette profession là qui est assez spécifique, puisqu'effectivement quand on est éleveur, l'administration a beaucoup de poids, mais il y a plein d'autres situations dans la vie où on peut se retrouver très seul et très dépossédé, et quand on est plusieurs, on peut réfléchir à des trucs, mieux comprendre les dispositifs et essayer de se battre ensemble pour avoir la tête un peu moins basse, quoi.
D'accord. Et on le répète, donc un chômeur, locataire, allocataire, intermittent du travail, travailleur pauvre, des histoires de loyer, de gaz, d'électricité, la débrouille et comment résister collectivement dans cette affaire-là. On vous remercie, on vous souhaite bon courage et bonne continuation, et on vous dit certainement à bientôt.
Merci beaucoup.
Salut. Au revoir.
Voilà, c'était donc un extrait d'une émission de Canal Sud que vous pouvez retrouver donc en intégralité sur le site sonenlutte.net, et c'est l'occasion de rappeler l'existence d'un document sonore qui a été fait par un groupe de précaires à Montreuil qui s'appelle N'avouez jamais, et qui donne pas mal de pistes pour résister aux contrôles domiciliaires de la CAF. Donc les contrôles domiciliaires de la CAF, c'est des agents de l'État qui viennent chez vous, parfois à l'improviste. Et justement, on apprend, on n'avoue jamais que vous pouvez refuser et qu'il faut leur dire de prendre rendez-vous. Et ensuite, essayer de comprendre un peu votre vie et de vous sucrer les allocs. Donc voilà, à écouter. On va pas le diffuser ce soir parce qu'on l'a déjà diffusé sur Radio Canu, peut-être même plusieurs fois. Mais enfin, pour celles et ceux qui l'ont pas encore entendu, c'est aussi sur le site sonenlutte.net. Et voilà, n'avouez jamais, document sonore pour résister au contrôle domiciliaire de la CAF. Et maintenant, on va donc parler de la lutte au Pays Basque, puisqu'on a entendu cette semaine que le parti Batasuna avait annoncé sa dissolution, et donc on voulait essayer de comprendre un peu ce que ça voulait dire.
Oui, exactement. Du coup, peut-être on peut déjà resituer un peu qui est Batasuna, qu'est-ce que c'est que ce parti Batasuna. Donc en fait c'est un parti qui a été créé en 2001, donc qui a un statut de parti politique et qui a la particularité d'exister au Pays Basque Nord, donc sur le territoire français, et au Pays Basque Sud, donc sur le territoire de l'État espagnol. Et ça a été créé en 2001 à la suite de différents mouvements, notamment Herri Batasuna, voilà, de différentes restructurations de partis politiques qui sont associés à la gauche, à ce qu'on appelle la gauche abertzale basque, donc la gauche nationaliste basque, au nord comme au sud.
Mais alors, donc là, Batasuna, c'est une des composantes de cette gauche abertzale, mais dans quel contexte intervient en fait cette dissolution de cette semaine ?
Alors, le contexte, déjà pour resituer un peu le contexte général, c'est que donc il y a un conflit ouvert au Pays Basque sur l'autodétermination du Pays Basque qui dure depuis plus de 40 ans. Hein. Ça a commencé sous le franquisme dans les années 60. Le mouvement, on va dire le plus célèbre, enfin ce qu'on connaît en général le mieux, notamment dans les médias, c'est ETA, donc Euskadi ta Askatasuna, donc qui était un mouvement de lutte armée qui a existé des deux côtés de la frontière également.
Mais t'en parles au passé, mais en fait ETA ça existe encore ou...
Alors ETA non, ça existe encore, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. ETA, ils ont annoncé la fin de la lutte armée. Donc le 20 octobre 2011 en fait ils ont annoncé la fin totale et définitive de la lutte armée. Mais à côté de ETA, ce qu'il faut redire pour le contexte, c'est qu'il y a eu beaucoup d'autres types de luttes abertzale au Pays Basque, et pas seulement ETA et pas seulement de la lutte armée. Il y a eu une lutte on va dire de guérilla urbaine plus diffuse, ce que côté sud ce qu'on appelle le kale borroka, donc c'est des émeutes de rue, en gros des attaques sur des banques et des choses comme ça, ça qui existe de manière diffuse régulièrement. Et puis il y a un gros mouvement politique citoyen, je sais pas comment on peut l'appeler, mais un mouvement social qui est pas du tout impliqué dans une forme de lutte armée, qui existe depuis des décennies aussi au Pays Basque, et qui lui continue à exister. Et donc ETA a annoncé la fin totale et définitive de la lutte armée. Mais depuis, en fait, les arrestations continuent. Des arrestations de membres supposés d'ETA, on entend souvent... d'ailleurs, c'est assez étrange, mais dans les médias, on entend souvent des nouvelles arrestations de membres supposés. À chaque fois, les membres sont supposés être chefs de l'organisation militaire d'ETA. Donc, ils ont peut-être arrêté une douzaine de chefs suprêmes d'ETA depuis 2 ans. mais la répression, en fait... Elle continue aussi pour des personnes qui ne sont pas accusées d'être membres de Batasuna, mais qui sont pas accusées d'être membres d'ETA, pardon, mais qui sont accusées quand même de terrorisme.
Donc ça, c'est le cas, par exemple, d'Aurore Martin.
Exactement. Aurore Martin, en fait, elle est militante de Batasuna, donc qui a annoncé sa dissolution hier, qui est une organisation qui est légale en France, qui était, puisqu'elle est dissoute, mais qui était légale en France et interdite sur le territoire espagnol. Donc Aurore Martin, elle était accusée non pas d'avoir posé des bombes, mais elle était accusée d'avoir participé à des meetings et d'avoir signé des tribunes dans des journaux. Mais c'est un peu la partie émergée de l'iceberg, parce qu'elle a été donc extradée, on en a déjà parlé, mais sous le régime du mandat d'arrêt européen. Et il y a eu des tas de personnes arrêtées comme elle, sous le régime du mandat d'arrêt européen, soit accusées d'être membres d'organisations illégales en Espagne, mais légales en France. Donc voilà, accusées de participer à une organisation légale sur le territoire français, extradées vers l'Espagne, soit accusées de terrorisme sur des accusations, des dénonciations obtenues en garde à vue. Et du coup, côté sud, donc côté espagnol, les gardes à vue, il y a beaucoup de cas de torture qui ont été dénoncés, notamment il y a un rapport, je crois, d'Amnesty International sur leur site qui est dédié exclusivement à ça, aux atteintes aux droits et à la torture dans l'État espagnol.
Et donc c'est peut-être le moment de faire une petite pause musicale dans cette discussion sur le Pays Basque, et justement on va écouter le morceau Hypocrisia Ristop du groupe Negu Gorriak, qui est un groupe de la scène punk alternative basque qui nous parle un peu de la répression justement, et qui veut cesser l'hypocrisie des gouvernants.
Vous êtes toujours sur Radio Canu, et c'est le Canu Info consacré aux luttes sociales. On vient de s'écouter Hypocrisia Stop de Negu Gorriak, donc un groupe basque, et on parle justement de l'actualité du Pays Basque.
Et oui, et on va maintenant comprendre pour... Ça y est, on a raté. Allez, on l'a refait. Donc c'est toujours toi qui parles du Pays Basque, quoi.
Oui, c'est ça. Pardon. Donc on continue à parler du Pays Basque. On parlait justement des mandats d'arrêt européens dont on a surtout entendu parler d'Aurore Martin, qui a été libéré sous caution là il y a 2 semaines, mais qui en a beaucoup d'autres. Et tous et toutes membres d'organisations qui en fait appellent à une résolution démocratique du conflit. C'est leur terme. Et du coup, ça dure depuis plusieurs années, et depuis bien avant, en fait, que ETA ait déposé les armes. Donc ça, juste quelques dates comme ça, en fait, il y a eu 3 jours avant le dépôt des armes par ETA, il y a eu la déclaration de Ayete, qui a rassemblé des personnalités politiques mondiales connues pour des conflits un peu ouverts comme ça. Donc il y avait Kofi Annan, il y avait Jerry Adams, le président du Sinn Féin, donc en Irlande du Nord. Voilà, plusieurs personnalités comme ça qui ont fait une déclaration en disant qu'ils invitaient ETA à déposer les armes, mais qu'en échange, ils invitaient les États à accepter de traiter des conséquences du conflit et de pas revenir en arrière sur la violence qu'il y a pu avoir d'un côté ou de l'autre et comment, de vraiment traiter uniquement des conséquences du conflit, ce que l'État français et espagnol n'ont toujours pas donné suite. Et avant, comme accord important, donc il y avait eu les accords de Guernica le 25 septembre 2010, où c'était plein de partis, syndicats et mouvements du Pays Basque qui réclamaient à ETA et au gouvernement des deux côtés de s'engager dans une résolution démocratique. Et puis il y a eu ensuite plusieurs dizaines d'organisations de la gauche à Bertzale, à Altasu en 2009, ça c'était encore avant donc, qui s'était engagé dans une résolution pacifique et démocratique de ce conflit.
Et donc, par exemple, un engagement que pourrait prendre l'État espagnol dans le cadre d'une résolution démocratique, ça serait par exemple une mesure d'amnistie pour tout ce qui a concerné les dizaines d'années qui viennent de précéder. Ce serait ce genre de choses.
Voilà, c'est ce genre de choses. Alors, sans forcément aller jusqu'à l'amnistie, il y a des mouvements au Pays Basque, en fait, qui s'occupent particulièrement de la question des prisonniers basques, qui sont éloignés du Pays Basque, que ce soit en France, donc on l'entend régulièrement dans l'autre Canu Info des vendredis, il y a des messages de soutien aux prisonniers basques qui sont à Corba, à Villefranche. Donc voilà, les prisonniers basques sont éloignés du Pays Basque, et c'est le cas aussi en Espagne. Donc c'est une des premières demandes de leur famille, c'est déjà de les rapprocher de chez eux, et puis évidemment une amnistie pour les prisonniers politiques.
Mais donc c'est pas du tout la voie qu'emprunte pour l'instant l'État espagnol.
Non, pas du tout, parce que les arrestations ont continué, le mandat d'arrêt européen d'Aurore Martin donc a été appliqué, elle a été libérée sous caution, mais elle est toujours inculpée pour appartenance à une organisation terroriste. Et ça, l'État français ne dit rien, et l'État espagnol continue dans cette logique-là. Et il y a des dizaines d'autres personnes qui sont inculpées et qui risquent également plus de 10 ans de prison pour appartenance à des mouvements jugés terroristes, mais qui sont encore une fois pas accusés de poser des bombes, simplement accusés de produire des textes jugés terroristes par l'État espagnol.
Et donc si la répression s'abat toujours autant sur les militants civils, pourquoi les organisations continuent de parler de résolution démocratique du conflit ?
Ça, c'est une bonne question, mais globalement, et on peut voir peut-être la dissolution de Batasuna aussi dans cette direction-là. C'est pas la première, il y en a eu au moins trois autres en 2012 d'organisations légales en France, illégales en Espagne, qui sont autodissoutes. C'est un peu de la part de la gauche à Bertzale de dire maintenant, de notre côté, toutes les conditions sont réunies pour une résolution politique et démocratique de ce conflit. Toutes les outils d'organisation qu'on avait dans un conflit ouvert, on les a dissous. Maintenant, il faut qu'on passe à une nouvelle phase, et c'est pour ça qu'on dissout nos organisations, et que maintenant on veut passer à une phase nouvelle. Et après, reste à attendre la réponse ou pas, mais la position des États pour cette résolution démocratique.
Mais donc finalement, vu de l'extérieur, de quelqu'un qui connaît pas, ça peut paraître puer un peu la défaite, puisqu'en fait l'État espagnol ne lâche rien, et en face. Toutes les organisations se dissolvent et disent ouais, on va essayer selon des nouvelles voies. Enfin, ça, pour quelqu'un qui connaît pas, et ça paraît pas très optimiste, quoi.
Ouais, ça effectivement, ça peut paraître pas très optimiste. Après, il y a certainement une part de réalité sur le terrain de ces organisations et des militants et militantes qui on a certainement assez de vivre dans un contexte de répression très forte, et que du coup peut-être que ces voies-là en fait permettent que ils aient un peu moins de pression sur les épaules et de répression, et de pouvoir avancer sur leur lutte, mais peut-être en s'écartant un peu de tout ce qui ramasse de la part des États français et espagnols depuis des décennies.
Ouais, le truc qu'il faut noter, c'est que manifestement le rapport de force n'était pas hyper bon avec ces éléments de violence là, ça leur permettait pas de se protéger finalement de la répression ni quoi, quoi. Donc.
Ouais. Et puis ces organisations, et encore une fois voilà la dissolution de Batashuna, c'est dans un contexte où c'est une organisation qui a eu des visites de ses locaux, des micros planqués partout, plusieurs personnes sous le coup d'un mandat d'arrêt européen, une personne emprisonnée puis libérée sous caution. Donc ça fait quand même beaucoup d'énergie à passer là-dedans. Et peut-être que la dissolution peut être vue, encore une fois c'est uniquement une supposition, mais aussi comme un moyen d'aller de l'avant différemment et pas forcément perdre toute cette énergie vraiment dans de la défensive, mais de pouvoir faire autre chose. Mais ça, c'est qu'une supposition. On va passer maintenant, du coup, à une petite brève.
Et oui, une mini-série de brèves aujourd'hui sur le 102.2. Et on commence par un article de Libération aujourd'hui, notre cher quotidien de gauche, qui nous raconte... Que l'Allemagne s'est décomplexée sur ses exportations militaro-industrielles. Donc voilà, l'Allemagne qui pendant plusieurs dizaines d'années, suite à la Seconde Guerre mondiale, avait une sorte de politique de prudence au niveau diplomatique et qui notamment du coup vendait des armes, mais pas trop. Est en train de changer sa doctrine. Donc voilà, avec le 21e siècle, ils se sont dit finalement tout ça, c'est des conneries. On va se lancer à fond dans le commerce des armes, et voilà, donc l'article, ce qu'il faut en retenir, c'est une citation qui est assez sympa, du ministre allemand de la Défense, qui s'appelle Thomas de Maizière, et qui a déclaré, à propos donc des choix des pays à qui on pouvait ou non vendre des armes, il a déclaré, je cite, « Se contenter de dire que les droits de l'homme sont le seul critère de choix possible est désormais insuffisant ». Donc voilà, désormais, il faut maintenant prendre plus de critères, hein, comme notamment voilà la solvabilité des pays, donc le pognon qu'on pourrait se faire. Et voilà, et la chancelière, donc Angela Merkel, elle a déclaré également « Ceux qui se sentent responsables du maintien de la paix, mais ne peuvent pas jouer un rôle actif dans toutes les régions du monde ». Donc il faut préciser ce que les puissances occidentales appellent jouer un rôle actif dans le maintien de la paix. Ça consiste à aller buter des gens un peu partout. Donc ceux qui peuvent pas ça, ils sont appelés à aider leurs partenaires dignes de confiance à prendre cette tâche à leur compte. Donc en gros, si on peut pas aller nous-mêmes buter des gens, il faut vendre des armes à tout le monde pour qu'ils puissent se buter les uns les autres. Et elle a détaillé quand même à qui elle pensait vendre des armes. Donc elle pensait aux pays de la Ligue arabe ainsi que ceux de l'Union africaine et de la CEDEAO, donc la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc voilà, et donc Libé nous annonce que la stratégie commerciale de l'Allemagne est un succès, puisque de 2007 à 2011, les ventes d'armes allemandes ont progressé de 37%. Et on apprend au passage que les ventes au niveau mondial, donc tout pays confondu, ont progressé dans le même temps de 24%. Donc on est ravis de savoir qu'il y a de plus en plus d'armes qui se vendent chaque année dans le monde et que l'Allemagne participe maintenant à cette course. Donc voilà, et on n'oublie pas que la France est très bien placée et n'a jamais eu de stratégie de prudence diplomatique, donc on ne peut pas avoir ce genre d'article à propos de la France. Mais la France vend des armes à gogo depuis toujours et continue à le faire. Voilà.
Mais ça me rassure pour l'emploi quand même.
Ouais, bah. C'est vrai que pour nos chères usines de Thalès et de Dassault, c'est plutôt une bonne nouvelle.
En parlant d'emploi, on va passer à une autre petite brève donc qui concerne Quick. Quick, du coup, j'ai plus mes notes sous les yeux, mais je vais vous la faire. Voilà, j'ai mes notes sous les yeux. Donc en fait, la société Quick veut attaquer en justice un de ses salariés en poste à Avignon. Et en gros, ce qui lui est reproché, c'est d'avoir raconté un peu ses conditions de travail sur Twitter. Du coup, c'est Le Progrès qui donne cette info et qui précise pas quel pourrait être le contenu de ces racontars sur Twitter et du coup le motif précis de la plainte. Donc affaire à suivre. Mais en tout cas, si vous voulez découvrir la vie quotidienne du Quick à Avignon, donc le compte à suivre sur Twitter, c'est Équipier Quick.
Et on continue à propos de donc d'un événement qui a eu lieu à Stein dans le 9-3 en région parisienne. Donc il y a une personne qui est tombée d'un toit et qui est morte suite à ça, en présence de la police qui est en train d'intervenir pour un cambriolage. et les syndicats de police trouvaient que tout était normal, mais quand même, d'après le Progrès, la police des polices a ouvert une enquête pour parce qu'ils ont estimé que c'était pas franchement une issue normale pour une intervention de police.
Voilà, et donc des morts liés à la police, il y en a un paquet régulièrement. Il y a pas mal de gens qui se battent par rapport à ça, au sein notamment des comités Vérité et Justice. On a pas mal parlé sur Radio Canyon, notamment de l'affaire Hakim Hajimi, qui lui s'est fait clairement assassiner par la police à Grasse. Et du coup, il y a encore pas mal d'actualités de lutte par rapport à ça.
Exactement, ouais. Donc, le 12 janvier prochain, il y aura une manifestation à Grasse, en haut du boulevard Victor Hugo, à 14h. Un débat à 18h le même jour, le 12 janvier, à l'Agora, 34 rue de la Busserine à Marseille, donc 14e arrondissement. Tout ça pourquoi ? Parce que le 14 et le 15 janvier, à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, il y a l'appel des policiers qui ont estimé qu'il était scandaleux d'être condamné à quelques mois de sursis après un assassinat. Et du coup, voilà, c'est les audiences sont publiques et tout le monde est évidemment convié à venir soutenir la famille et le comité Vérité et Justice à la cour d'appel d'Aix les 14 et 15 janvier. Donc les audiences c'est toute la journée, il suffit d'avoir une pièce d'identité pour entrer, et il y aura des rassemblements, des points presse, etc., etc.
Et il me semble qu'il y a également des documents sonores disponibles sur internet sur l'affaire Hakim Hajimi et sur les comités Vérité et Justice.
C'est certain, notamment je pense sur Son en lutte, mais j'ai pas les références précises avec moi.
Sur Son en lutte et sur le blog des archives sonores de Radio Canyon, il me semble. On vous invite donc à aller visiter
un peu
ces deux sites. Ouais, ouais, il y a eu des émissions spéciales qui ont été faites sur Canu, donc ouais, sur Son en lutte et sur les archives sonores de Radio Canu. Vous pourrez retrouver plein de trucs sur tout ça.
Vous êtes toujours sur Radio Canu. Maintenant, on est en direct avec notre envoyé spécial qui est actuellement sur la ZAD à Notre-Dame-des-Landes. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on t'entend bien, je crois. Donc, si tu peux nous faire un peu un petit topo. Ce week-end, on sait qu'il y a la manifestisade, quelque chose comme ça. Et du coup, sur comment ça se passe là-bas, au niveau de la répression, au niveau de l'accès, voilà. Qu'est-ce qui se passe là sur la ZAD actuellement?
Oui, alors sur la ZAD, la mise en place du festival est un peu difficile parce que déjà notamment il y a peu de soutien par rapport au festival puisqu'il y a plusieurs personnes qui considèrent un petit peu que ça risque un peu de faire l'Euro Disney des militants. Donc il y a un peu cette angoisse-là que beaucoup de personnes viennent dans une démarche un peu consumériste. Mais ceci dit, il y a aussi des problèmes par rapport à la police, puisqu'il y a de nombreux barrages routiers de partout. La police est vraiment de partout dans la ZAD et contrôle même les toutes petites routes. Ils ont empêché de faire venir des fûts de bière, 200 fûts de bière, du matériel pour le son. Donc le festival a pris du retard, pour le moment il n'y a pas de son alors que ça aurait dû déjà commencer. Et aussi un arrêté préfectoral qui dit qu'on n'a pas le droit de se circuler avec des tentes dans le coffre. Voilà, donc toutes les personnes qui viennent avec des tentes ne peuvent pas rentrer dans la ZAD. Donc pour le moment les personnes se garent un petit peu loin de la zone où il y a le festival qui se déroule.
D'accord. Et donc le il y a quand même du monde plus de monde qu'en temps normal sur le site. Les gens arrivent quand même à accéder quoi.
Il y a pas mal de monde qui arrive et donc il y a pas mal de camions un peu de partout et de voitures. Et ce qui est important aussi pour les personnes qui viennent d'autres villes et qui connaissaient pas encore la ZAD, c'est notamment s'il y a des personnes qui écoutent. Ce qui est important, c'est de bien continuer à pas déclimer son identité forcément quand on arrive sur la ZAD, puisque depuis longtemps, c'était une pratique qui fait qu'à la ZAD, souvent, les personnes refusent le contrôle d'identité. Et là, il y a de plus en plus de personnes qui arrivent et qui ne savent pas vraiment quelles sont la coutume ici. Donc voilà, c'est ça que je voulais redire. Parce que là, il y a eu 4 personnes qui se sont fait contrôler hier, qui ont refusé de donner leur identité et qui ont été en garde à vue pendant 4 heures. Mais, voilà.
D'accord, donc si...
On risque ça.
On a le droit de... Du coup, pour résumer, on a bien toujours le droit de pas décliner son identité quand on n'est pas au volant. Mais par contre, on risque quand même d'aller au poste pour un contrôle d'identité.
Voilà.
D'accord.
Et c'est quand même important, vu qu'on est nombreux, de pas le faire, de pas donner son identité.
D'accord. Et est-ce qu'il y a des débuts, je sais pas, de violence de la part des policiers et gendarmes, au-delà de violence physique, on va dire, au-delà de la violence des contrôles d'identité, des interdictions, ou est-ce que pour l'instant ça s'en limite à ça, à faire que les activités qui doivent avoir lieu actuellement sur la ZAD n'aient pas lieu?
Ça se limite à ça, à part hier, où il y a eu l'expulsion de Bel Air, c'est un endroit qui avait été expulsé au tout début des expulsions de novembre, et là qui avait été réoccupé il y a 2 jours, et là ils l'ont réexpulsé hier, donc il y a eu quand même des affrontements violents, enfin il y a eu une barricade qui a été faite, et 7 personnes qui ont été arrêtées, mais elles ont été ensuite relâchées.
D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres actualités que tu peux nous donner sur ce qui se passe, peut-être pas forcément lié au festival, mais ce qui se passe ces jours-ci là-bas? Est-ce qu'il y a d'autres infos à redonner en plus?
Eh bien, à la ZAD, en tout cas, il y a quand même plein de constructions qui continuent de partout. Là, il y avait une semaine qui était organisée à la Châtaigne, donc c'est le lieu qui avait été créé le 17 novembre. Il y avait plein de projections, de débats et de concerts. Et là, il y a un appel aussi à ce que des collectifs viennent tenir la Châtaigne pendant une semaine chacun, pour qu'il y ait vraiment encore des collectifs qui gèrent le lieu collectif. Et sinon, oui, il y a beaucoup de constructions de partout, vers le Western et de partout, des cabanes dans les arbres, on fait des... des travaux de drainage pour l'eau, parce qu'il y a encore beaucoup de boue, donc on fait des caillebotis et des constructions, donc il y a plein de choses à faire, quoi.
D'accord. Peut-être que ce qu'on
peut... Et demain, il y a encore d'autres... Enfin, il y a, dans le cadre du festival, il y aura une pièce de théâtre, et après, il y a aussi un atelier non mixte pour apprendre à jeter des projectiles sur les filles.
D'accord. Et du coup, peut-être on peut simplement rappeler aux auditeurs et auditrices que surtout s'ils ou elles veulent se rendre là-bas, c'est toujours bien de consulter avant le site zad.nadir.org pour avoir toutes les dernières infos et puis les infos pratiques pour arriver sur place. Merci du coup de ton témoignage et puis bon courage là-bas et bon week-end à toutes et tous sur la ZAD. Et nous, on va continuer avec le reste des infos, mais on fait peut-être une petite pause musicale d'abord. Voilà, vous êtes toujours à l'écoute du Canu Info sur Radio Canu. Et on va maintenant parler des luttes au Kurdistan, puisqu'il y a eu des nouvelles peines de prison qui sont tombées hier en Turquie.
Ouais, exactement. Donc, dans ce qu'on appelle l'affaire KCK, la KCK, c'est une espèce de, on dirait, de communauté de communes, mais underground dans les communes du Kurdistan qui sont administrées par le parti pro-kurde BDP. Et donc il y a eu toute une vague d'arrestations ces derniers mois, jusqu'à 8000 arrestations. Donc il y a les procès qui ont commencé hier. En fait, il y a 40 camarades qui sont passés en procès hier. Et donc il y a les tribunaux qui ont distribué des peines allant de 3 mois à 17 ans ferme contre 40 personnes. Donc la KCK, c'est le prétexte, c'est que c'est la branche urbaine soi-disant du PKK d'après les magistrats turcs, et sauf que effectivement les liens solides et tangibles et les preuves, elles sont largement imaginées ou largement exagérées par les tribunaux juste pour pouvoir détruire toutes les infrastructures du mouvement kurde là-bas.
Donc là aussi c'est un peu la même stratégie de répression que ce qu'on peut voir au Pays Basque, avec finalement tous les gens qui luttent pour la cause kurde, qui sont assimilés au terrorisme. Quoi qu'ils fassent, en fait, l'État explique que, vu qu'ils sont pour le Kurdistan, en gros, ils sont terroristes, quoi, c'est un peu...
Exactement. Et quand t'es dans la lutte armée, c'est pas bien, mais quand tu milites par des moyens civils ou légaux, etc., etc., par ailleurs, et que t'essayes de renouveler le mouvement sur ces bases-là, t'en prends plein la gueule quand même. Dans le cadre de l'affaire KCK, faut rappeler qu'il y a encore 2000 personnes qui sont détenues, et donc dans les prisons turques, et sous régime antiterroriste, etc., souvent sous isolement, etc. Et c'est l'occasion de se rappeler le mouvement de l'automne dernier dans les prisons, donc qui a été animé par énormément de militants kurdes, même si c'était pas uniquement eux, mais donc avec plusieurs centaines de détenus en grève de la faim illimitée pendant 68 jours, etc., etc. Et ce qui nous rappelle aussi les grandes grèves contre les prisons, les régimes d'isolement carcéraux en Turquie, la modernisation des prisons, un grand débat en France en ce moment, qui avait commencé en 2000 en Turquie, beaucoup autour du DHKPC, qui est un parti, une organisation marxiste révolutionnaire turque. Et dans les jeux de ping-pong de répression ici et là-bas, ce qui a été le cas souvent aussi pour des gens du PKK ou supposés d'être proches du PKK. En France, le 20 décembre dernier, il y a eu au tribunal correctionnel de Paris, suite à une instruction menée par notre ami Fragnoli, dont on entend parler tout le temps parce qu'il s'occupe des anarcho-autonomes, des islamistes, des kurdes, des communistes turcs, de tout ce qui bouge.
Il kiffe le terrorisme, quoi.
Voilà, c'est le cow-boy de notre beau pays. Et donc le 20 décembre dernier au tribunal correctionnel de Paris, contre des militants sympathisants présumés en lien avec le DHKPG, pareil, une instruction super floue. Donc il y a eu 3 condamnations à 7 ans ferme et 2 condamnations à 4 ans ferme plus 1 an avec sursis en bonus.
Et donc là, en France, ces condamnations-là, donc sur France, le droit français, quoi. Donc
des réfugiés politiques en France qu'on accuse de voilà d'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, par lui à une association qui s'appelait l'Association culturelle de solidarité Anatolie Paris, qui a été dissoute du coup. Donc il y a des militants qui étaient pas présents à l'audience. Il y a eu des mandats d'arrêt de lancer contre eux. Donc s'ils ont pas été retrouvés, on leur souhaite bonne route. Et il faut dire aussi que, pareil, les petits échos historiques dans les condamnations, il y a à la prison ferme, il y a une dame, une camarade qui est gravement malade parce qu'elle avait été nourrie de force à l'issue d'une grève de la faim très longue menée par le DHKPG en Turquie et elle était réfugiée en France suite à ça. Et voilà, elle est incarcérée malgré son état de santé qui est très préoccupant.
Donc on voit que sur ce plan-là, le changement de majorité présidentielle n'a pas changé la politique du parquet par rapport à ça, quoi.
Surtout que pour le PKK, c'était relativement cyclique. Il y a toujours un volet de militants du PKK qui font de la préventive pendant des durées aberrantes, sans charge et sans preuve. Le DHKPG, à ma connaissance, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu d'instruction contre eux. Et du coup, voilà. Et là, c'était des gens qui étaient déjà réfugiés pour des motifs politiques. C'est vraiment une sorte d'acharnement. Mais on sait que l'État français et l'État turc sont dans des tractations perpétuelles. Pour le moindre motif, des fois, c'est des choses qui n'ont rien à voir dans le potage. C'est un contrat économique qui doit être signé. L'État turc demande un petit coup de pouce dans son sens contre des groupes militants présents ici. Des pratiques comme ça, quoi. Du monnayage sur la gueule des gens.
Est-ce que tu veux rajouter un truc par rapport au DHKPG ou quoi, ou est-ce qu'on part sur la pause musicale?
On peut tout à fait partir sur une petite pause musicale.
Du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir s'écouter?
On va s'écouter un petit morceau d'Ahmed Kaya que je dédierais volontiers à Mehmet, un camarade de Batman, dont le frère est incarcéré pour une longue peine et qui a participé à la grève de la faim de l'automne dernier.
Allez, c'est parti pour Ahmed Kaya.
Aklım tamam, açık arttırmayı ben başlattım. Satıyorum, satıyorum, sattım. Lokma arttıran ya da sattıran, pişman eden ve düşünceyi atın. Açık arttırmayı ben başlattım. Satıyorum, satıyorum, sattım. Kendini ne sandın acaba metropol? Kurduğun haram parayla, açtığın garip yarayla. Sarayda kalmış aklınız sizin. Belli kart yaşını bilmem ama senin zeka yaşın iki yer kalmamış beyninizde. Feri sönmüş gözlerinde okunmuş satılmaya hazır düşünce. Yere düştüğünde olmayan aklına gelecek. Sahip olduğun her düşünce müzayede bağlamında sözlerim. Satmaya hazır saçma olan her şeyi gözlerim ben. Başladım lokma arttıran çok ucuz hep uyuz aldım. Ustuz nabız oldunuz ben çoktan sattım kötü düşüncelerimi. Saçma ideolojilerimi sizinkiler de ellerimde. Paha biçilmez değil 90 derece meyil yukarıdan aşağıya. Kritiğinizde iyice batın. Sizi batıran her boş şeyi satın. Doğruları satın alın. Yolsuzluğu yatıralım. Kötülüğü batıralım. Bağlayalım kötü elleri. Dağlayalım yan bakan gözleri. Sallayalım antirealist beyinleri. Gençler izlesin şimdi beni. Yer kaplayan her biri yılan. Bende kalmasın aklım tamam. Açık arttırmayı ben başlattım. Satıyorum satıyorum sattım. Lokma arttıran ya da sattıran, pişman eden ve düşünceyi atın. Açık arttırmayı ben başlattım. Satıyorum satıyorum sattım.
Voilà, il est 19h55 à l'antenne de Radio Canu. Et comme il ne restait plus que 5 minutes, on a été censuré par la commission musicale, la direction de Radio Canu, qui nous a empêché de vous passer le morceau d'Ahmed Kaya et qui nous a forcé à passer un autre morceau plus court.
Ouais, désolé, c'était Jeza. Ceza, un rappeur de Turquie.
Mais du coup, la dédicace est quand même valable.
Exactement.
À Mehmet de Batman. Et on va maintenant terminer avec ses nouvelles du Kurdistan. Avec Sevil Sevimli, qui est donc une étudiante franco-turque, qui a pas mal fait parler d'elle grâce à des camarades à elle qui ont profité du fait qu'elle était aussi française pour faire du boucan autour de son arrestation en mai dernier. Et ça avait pas mal marché, notamment dans les médias mainstream français. Et c'est donc l'occasion, en tout cas pour nous, de continuer à en parler et de parler aussi de toutes les autres personnes qui subissent la répression là-bas. Donc où est-ce que ça en est pour Sevil?
Donc voilà, simplement, le 16 janvier, il y aura une audience contre elle, au tribunal de Bursa, c'est une des grandes villes de l'ouest de la Turquie. Et du coup, voilà, juste elle est accusée, pareil, de liens supposés avec le DHKPG, simplement pour sa présence à un concert, des diffs de tracts et de journaux qui sont même pas forcément avérés. Et donc, elle a fait 3 mois de préventive à partir du 10 mai. Et elle a été libérée, mais elle doit pas quitter le territoire turc, elle est sous contrôle judiciaire. Donc, audience le 16 janvier à Bursa.
Yes, et ben on part maintenant sur l'agenda du Canu Info.
Oui, un petit agenda du coup. Bah déjà demain, le 5 janvier, il y a une action contre les œufs de batterie chez Monoprix à l'appel de Dignité Animale. Donc rendez-vous au Monoprix Cordelier pour demander de bannir les œufs en batterie de ces magasins. C'est de 14h à 17h devant le Monoprix Cordelier. Ensuite, le 9 janvier, donc c'est mercredi prochain, le collectif Stop Pub Lyon. Il y a une réunion de lancement donc à l'appel de ce collectif pour la deuxième semaine anti-pub à Lyon. Donc c'est à 19h au Cédrats. Donc le Cédrats, c'est montée Saint-Sébastien, au début de la montée Saint-Sébastien à droite.
À l'angle de la place Croix-Paquet.
Voilà, c'est ça. Et donc voilà, une réunion pour présenter le projet, échanger sur les différents types d'actions, et puis faire connaissance autour d'un apéro partagé. Mais le 9, il faudra choisir, parce qu'à 19h45, à la librairie La Griffe, donc au 5 rue Sébastien Griffe dans le 7e, il y a le collectif rhodanien de soutien aux opposants et aux opposantes de la lutte contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui organise la projection du documentaire Au cœur de la lutte. Donc voilà, c'est une projection suivie d'un débat. Vous pouvez en savoir plus sur rebellion.info. Et puis une dernière petite annonce, s'il reste une minute, ce sera un peu plus tard, c'est fin janvier dans la Drôme. Du coup, dans la Drôme, il y a des éleveurs et éleveuses qui sont inculpés, enfin qui sont poursuivis pour refuser d'identifier électroniquement leur brebis. Et du coup, face à ça, le collectif pour la liberté de l'élevage de la Drôme appelle à une transhumance itinérante hivernale dans la Drôme. Avec, donc ça commence le lundi 28 janvier et c'est jusqu'au samedi suivant, ça finira le vendredi suivant à midi devant la préfecture à Valence. Et tous les soirs, en fait, ça s'arrête dans une ferme. Et puis il y a la projection du film Mouton 2.0. Donc bah, ils vous invitent à les rejoindre, à faire un bout de chemin avec eux et avec les brebis, et puis à venir voir le film, à venir discuter tous les soirs dans les fermes. Voilà, vous pouvez en savoir plus sur le site du film Mouton 2.0. Et puis bah, c'est fini pour ce soir.
Ah, ouais, les Canu Info, c'est toujours du lundi au vendredi sur le 102.2 à 19h.